Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée et aux fanzines. Un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Ce soir, pour cette deuxième émission, nous avons le plaisir et la joie de recevoir Breck Stevens et l'éditeur Thomas Gabizon pour parler des Lontano de Breck Stevens publiés chaque Sud en octobre 2019. En chronique, nous parlerons de La Petite Russie de Francis Desharnais, publié par les éditions Pou Pou en octobre 2018, Cupé de Power Paola, publié aux éditions Agrumes en mai 2019, et Les Clubs des Chats qui cassent la baraque de Yon San Park, publié aux éditions Misma en mai 2019. Mais commençons par l'interview. Breck Stevens, vous avez 22 ans quand vous sortez de l'école Saint-Luc des Gants en Belgique. Ces jours, il y avait de la pluie, peut-être, et vous avez votre projet de fin d'études, Les Noceurs, dans votre baluchon. Votre style, marqué par une utilisation remarquable des transparences, des couleurs intenses, la passion pour les détails, suscite immédiatement des fans. Je me rappelle d'avoir lu d'entrée, début au rayon BD de Gilbert Joseph, votre Noceur. J'étais bouche bée. Depuis, vous avez obtenu des prix, publié chez Actes Sud Les Amateurs en 2011, Panthère en 2014, Les Rigoles en 2018, et depuis, votre notoriété n'a cessé de croître. Vous êtes désormais un auteur très connu en France et à l'étranger. Et en résumé, nous sommes contents de recevoir une star de la BD ce soir. Et vous n'êtes pas seul à Radio Campus. Vous êtes avec votre éditeur, Thomas Gabinson, Chacte Sud. Première question, je voudrais revenir sur les origines, donc sur vos 6 ans. Pouvez-vous nous parler des Bob le Fantôme?
C'est la toute première BD que je faisais. Apparemment, j'arrêtais vraiment pas de dessiner. Je faisais de la BD sur le verso des syllabes de mes parents, comme ça, genre comment on dit en français, des épreuves, des devoirs avec des notes de mes parents qui étaient des profs. Et puis sur l'arrière, il y a des BD à moi. C'est comme ça que je sais que j'avais 6 ans, parce que sur le verso, il y a la date, parce qu'il y a le nom d'un étudiant tôt dans les années 90. Et Bob le Fantôme, c'était un petit bonhomme au bâton, comme le classique bonhomme dessiné par un enfant. Il y avait en fait une ambiance comme si je faisais semblant de dessiner comme un enfant, parce qu'il y avait au moins un BD où il enlève sa masque et il y a un visage plus normal en bas de ça. Donc, je me souviens que toutes les blagues étaient presque toujours des blagues circulaire, où ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, on passe encore une fois ce qui est déjà passé 5 fois dedans. Et ça, c'est déjà très typique pour un enfant qui en a jamais marre de refaire la même chose, je crois. Et puis, beaucoup de blagues méta, on dirait. Genre, casser le quatrième mur, parler au public, commenter sur le fait d'être dans une BD, et un truc comme ça. Donc, apparemment, c'est très infantile, enfantin, le méta.
Mais c'était qui Bob le Fantôme? Qui s'est caché derrière Bob le Fantôme? Est-ce que c'était vous?
Forcément pas. C'était un peu un Tintin, un peu brillant, forcément, une sorte personne en particulier, le genre de personnage qui peut être un cowboy dans une blague et un astronaute dans une autre et conduire un avion dans une autre, ou il y avait un blague, je me souviens plus exactement ce qui était le blague, où c'est la naissance de Bob le Fantôme, et apparemment le maire a difficulté d'accoucher, et l'infirmier sort un aspirateur pour le sortir de... C'est assez violent, du coup.
Et j'ai vu que vous étiez fan de bande dessinée, vous en lisiez beaucoup avant de rentrer à l'école, et est-ce que quand vous étiez petit, vous en lisiez aussi déjà?
Ouais, beaucoup.
Et quel type de bande dessinée vous inspirait à l'époque?
À l'époque, 6 ans, je ne saurais pas dire exactement, mais quand j'étais petit, on avait plein de grands séries flamands pour jeunesse, donc des trucs comme Kikabou Urbanus, qui était un truc très étrange. C'était comme si on avait contrebandé des trucs très adultes dans une BD enfant. C'était une sorte de série enfant par des gens très 68-ard, je crois, mais il y avait... Bon, j'utilise peut-être mal ce mot, mais Il y avait de la prostitution, alcoolisme et dépression dans cette BD qui pourtant était dans les supermarchés pour était lue par des enfants. Mais puis aussi beaucoup d'Astérix, Lucky Luke, tous les trucs classiques comme ça.
On va venir à vos BD à vous. Il y a beaucoup, il y a une narration à chaque fois dans vos bandes dessinées, mais c'est aussi une part de déconstruit avec une grande part d'onirique et une image comme ça qui peut être fragmentée par moment. Comment vous créez vos histoires? Est-ce que le dessin, enfin, quel bout va le premier et comment vous trouvez l'inspiration?
Qui le marque probablement visuellement beaucoup et que j'essaie toujours de traiter le BD, c'est pas une peinture, mais je veux pas que les pages BD soient toujours une gaufrier. Je veux quand même qu'on ait une sorte d'impression qu'on lit le rectangle entier d'un livre posé ouvert sur un rectangle horizontal et que l'œil peut trouver son chemin un peu plus librement. Ça fait que superficiellement, ça ne ressemble pas beaucoup à de la BD classique, parce que pour des autres raisons aussi, que quand il y a des personnages qui parlent, je préfère qu'ils soient sur fond blanc pour qu'on voit mieux bouger leur silhouette et des trucs comme ça. C'est tout le double page qui est l'écran, en fait, disons, dans lequel tout peut se passer. Et l'œil est assez... Le lecteur est assez intelligent pour vite se repérer, pour trouver son chemin dans ça.
C'est vrai qu'on peut facilement avoir l'impression d'être dans la scène, parce qu'il n'y a pas de cases, et revenir facilement à des dessins sur la page de gauche et à droite, enfin, faire des allers-retours comme ça, c'est ça qui est...
Exactement. Merci, tu as super bien dit le but de faire ça comme ça. C'est que je trouve qu'il est plus facile de se projeter dedans quand il n'y a pas des cadres autour de tout, quand ce n'est pas juste... aussi pas tenter de faire des cadrements de caméra, soi-disant, parce que ce n'est pas du film.
Et dans cette sorte d'énorme livre horizontal où on peut se plonger dedans, comment vous travaillez sur les scénarios?
Ça a changé à chaque fois. Par exemple, Panthère, que je vois devant moi, là, ça m'est sorti au moins au début, très facilement. Panthère, quand j'ai fait ça, il y avait quelque chose de comme si j'ai écrire un peu comme un enfant de nouveau, dans le sens où je commençais page 1 et puis 2, plutôt j'écrivais un chapitre, premier chapitre, et puis je commençais à dessiner première page, deuxième page. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit comme ça, parce que dans les deux livres avant, je faisais plutôt une petite scène par là, pendant qu'une autre partie de l'histoire n'est pas encore claire. Oui, donc ça varie beaucoup. Les Noceurs, c'était assez improvisé, avec des éléments cousus ensemble, des scènes qui tous étaient dans la même ambiance de qui est populaire, qui n'est pas populaire, souffrance semi-adolescent, jeune adulte, comme ça. Puis Amateur, j'avais vraiment tenté de faire toute une storyboard détaillée, que j'ai après abandonné, je crois, à un moment, tout... Panthère, c'était très linéaire comme ça. Et puis Rigole, j'ai énormément tenté d'être méthodique. C'était pas linéaire comme Panthère. J'ai travaillé certaines scènes qui étaient parfois tard dans l'histoire avant de travailler certaines autres scènes qui étaient tôt dans l'histoire. L'air que ça avait, c'était un énorme classeur. Plein de notes et des pages storyboard, puis des dessins déjà finis, imprimés, remis dans ce classeur. Puis ça devenait deux gros classeurs. Il a fallu que j'achète des sacs bandoulières plus grandes pour pouvoir... parce que je n'ose pas sortir sans tous ces classeurs. Parce qu'au cas où j'ai une idée, je veux le mettre tout de suite dans le bon lieu. Donc évidemment, il n'y a pas de méthode. C'est pour ça que je suis en train de faire une liste de comment ça s'est passé à chaque
Et
fois.
Et quand vous êtes en train d'écrire, est-ce que vous pensez à votre public ou pas?
Bonne question. En tout cas, il n'y a pas... je suis sûr que je ne fais pas ça pour moi tout seul, comme une sorte... Je ne passe pas 4 ans à dessiner une BD juste pour après le lire moi. Donc c'est sûr que je suis en train de... Oui, sinon je le regarde dans ma tête. Tu vois, donc je crois que... tu vois, peut-être parce qu'on a commencé par parler d'enfance, je vais retourner dans ça un peu. Il y a un truc avec le jeu d'enfant parfois où si on joue en princesse, on veut peut-être être habillé en princesse parce qu'on veut que ça devienne un peu plus réel que ça serait si tu portes des vêtements normaux ou si t'aimes quand même un flingue en plastique parce que ça rend un petit peu réel ton monde fantasy. Et je crois qu'en partie, c'est pas nécessairement pour toi tout seul, ça aide aussi à inviter quelqu'un d'autre dans ton jeu, de jouer à 3 ou 4. C'est plus facile quand tu as des objets, des accessoires qu'on voit tous, pour qu'on entre tous dans le même monde. Et je me demande s'il n'y a pas avec faire un livre quelque chose comme si... je joue un jeu, mais il faut cette chose solide et visible pour que tout le monde puisse entrer dans le jeu avec moi et voir ce que moi je vois, être dans la même fantasy.
Et en termes de méthode, est-ce que avoir une forme de cadre, d'unité comme l'unité de temps qu'il y a dans Les Rigoles ou l'unité de lieu qu'il y a dans Panthère, ça permet de cadrer pour pouvoir développer cet imaginaire que vous dessinez, ouais.
C'est vrai que je suis souvent content quand je trouve ce que tu dis là de ah je sais que tout se passe dans une semaine ou dans une nuit ou dans une chambre ou parce que j'ai tendance à aller assez baroque dans certaines autres facettes de beaucoup déployer tout ça en détails et variations. Donc, c'est toujours bien si je sais que quelque part, il y a une barrière, une unité dans tout ça.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du lien entre les Nosseurs et les Rigoles ? Est-ce que les Rigoles, c'est le petit frère ou la petite sœur des Nosseurs ? On peut dire ça comme ça ou...
Ouais, les Rigoles, c'est le grand frère de les Nosseurs. C'est,
ok.
Les Nosseurs, j'avais autour de 22 ans quand je le faisais. C'est sorti 2010 en France avec Thomas qui m'a trouvé inconnu. Et du coup, c'était un livre qui d'un côté, ça parle de ce que je connaissais pour les personnages, c'est-à-dire que les angoisses qu'ils ont, ils sont très à 24 ans peut-être, je crois, non, tout le monde est en train de regarder qui, est-ce que moi on m'apprécie, est-ce que moi je suis seul à la fête, etc. Puis il y a beaucoup de scènes assez spectaculaires de fêtes en ville, mais qui sont fantasmées en grande partie, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore tant de la vraie sortie. C'est un roman graphique de 180 pages sur la fête où il n'y a pas une trace de drogue nulle part. Y a certains, c'est un peu une...
Donc pendant vos études, vous faisiez pas trop la fête?
J'avais pas encore eu le temps de digérer des expériences comme ça, c'était un peu nouveau encore. Et du coup, il y a une hésitation comme ça dans le livre qui est... Il faut quand même toujours que tu sois en train de découvrir quelque chose. Donc il y a une sorte de naïveté parfois dans le livre et aussi un truc pour le moment qui marche bien parce qu'on sent l'excitation de l'auteur quand même, je crois. Et puis les Rigoles, c'est 10 ans plus tard, en ayant digéré pas mal plus les choses.
En tant que professionnel de la fête. When it meets you, it takes all your powers. It completely shatters, nothing matters. Leaves you weeping, sleeping, calling laughter. Oh, please leave me to solve. Thank you.
groupe Tonstand Band de l'album Sorcerer. Nous sommes toujours en compagnie des Brechtavens et de l'éditeur Thomas Gavinson. Brechtavens, vous utilisez souvent des couleurs très vives. Est-ce que rêvez-vous d'une BD noir et blanc?
Ouais. Aussi, comme ça devient un peu une blague là avec ma copine, que chaque fois que je commence un nouveau BD, je fantasme de limiter les couleurs, aller peut-être noir et blanc, peut-être travailler en couches, c'est un peu technique, mais genre comme sérigraphier par hasard. Et j'ai toujours comme ça au début de mes recherches graphiques, j'ai comme ça quelques expériences comme ça, quelques petits tests et des trucs. Et puis jusque-là, il y a toujours un moment où je tombe sur une barrière qui me dit « Oh, là, ça serait vraiment pratique de pouvoir... sortir mes couleurs direct sur mon pinceau, en faire autant que je veux, on imprime sans quadri, on se pose pas la question ouais, chaque fois il y a une façon que ça m'embête de la limitation, surtout en couleur. Là, juste maintenant, par exemple, je suis en train de penser à un prochain livre et j'étais en train de, hier par exemple, fantasmer sur le noir et blanc. Puis je me dis, bon, il y a une scène importante avec un cube Rubik. comment mettre en valeur un cube Rubik sans tous les couleurs? Je sais pas, oui, c'est...
Le relisson.
Est-ce que je dois mettre genre des petits points pour rouge, des petites lignes pour vert? Ça pourrait être drôle, hein, mais... ouais, tu vois, il y a toujours... je tombe toujours sur quelque chose comme ça qui me...
Je comprends.
Donc j'en rêve et je le fais pas jusqu'à.
Et comment ça se passe une journée type ou une nuit type de travail pour Brechtavens? Comment vous avez des méthodes de boulot, des horaires très très fixes?
Non, je suis c'est toujours pas devenu très fixe. Les dernières années, je commence à me lever très tôt au printemps et l'hiver, je me lève très tard de nouveau, je ne sais pas ce que c'est. Avant, quand j'étais plus petit, je travaillais beaucoup la nuit, et voilà, me lever à midi et puis commencer à vraiment démarrer correct, faire 5 heures l'après-midi, etc. Mais c'est compliqué de voir des gens. Ça voulait dire qu'il fallait beaucoup d'amis que tu peux appeler à 2 heures la nuit pour se voir. Du coup... là, disons que ça commence à... Bon, 8 heures, c'est un peu la frime, c'est en fait pas tout à fait 8 heures.
Et à propos de votre vie...
Pardon. C'est pas super intéressant. En fait, ça dessine un peu, ça mange un peu, ça regarde une série avec un spaghetti, puis ça redessine. c'est pas nécessairement fascinant, une journée typique. Visuellement, il n'y a pas grand-chose à voir.
Donc, vous êtes flamand, des gants. Comment vous êtes arrivé à Paris? Est-ce que c'est vrai cette histoire des changements des trains? Donc, à un certain moment, vous devez faire un changement. J'ai entendu que vous devez faire un changement des trains à Paris et vous avez décidé de ne pas prendre les trains pour arriver jusqu'en Belgique. Est-ce que c'est vrai?
Maintenant que je t'entends le dire comme ça, en fait, il faudrait qu'on change l'anecdote et qu'on dise « j'avais raté mon train, j'avais raté mon changement et du coup, je suis toujours à Paris 6 ans plus tard. » Je sais pas, c'est vrai. C'est genre, surtout, c'est la bonne façon court de le raconter parce qu'il y a des grosses raisons pour lesquelles j'ai pas pris le train. Mais j'étais allé, c'est dans une mauvaise période où j'étais allé censé me faire guérir en travaillant sur une colline au Jura chez quelqu'un que je connaissais, un ancien prof d'illustration. Bon, apparemment pour moi, travailler le chant, ça me guérit pas particulièrement ou pas tout de suite. C'est pas mon genre. Et puis, j'étais carrément en arrêt de travail. J'en étais assez mal pour ce genre de truc. Donc, j'avais rien particulier de prometteur qui m'attendait à Gand, en Flandre. Du coup, j'ai pas pris le train. Je me suis fait loger. Chez Thomas, là, qui est mon éditeur, mais qui est surtout vraiment mon super ami ici à Paris. En fait, presque tous les gens qui sont toujours importants aujourd'hui, presque tous mes amis ici à Paris. Alors, en fait, je les connais à cause de Thomas. Je suis d'ailleurs pas la seule personne pour qui c'est le cas. Il est une sorte de nœud social, lui, une sorte de milieu.
Centre catalyseur.
Ouais, il y a des gens comme ça qui connectent plein de gens d'une façon ou autre.
C'est fini, là.
oui, mais bon, t'as fait un bon travail quand tu pouvais.
Est-ce que vous pouvez nous... Donc, vous êtes là ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre, Thomas et Brecht?
Ouais, on en est à 3 versions de ça maintenant. Attends, c'était comment, Thomas?
Il y avait la version où moi, j'ai vu sur Internet les images de Brecht, où j'ai dit, oh, c'est bien ça, on peut se rencontrer. Et, parce que c'était surtout l'image de l'escalier... sur de nos sœurs, la couverture de nos sœurs, où il y a l'escalier qui monte, mais c'était pas de la bande dessinée, c'était juste un escalier. Moi, j'ai grandi avec Escher en faisant des puzzles de Escher, et c'était proche de ça, alors j'aimais bien. Et je lui écris un mail et il me dit je vais à Montreuil bientôt, alors on va se rencontrer sans doute. Et ça, c'est une des versions. L'autre version, c'est qu'il a choisi dans l'alphabet.
Ouais, que j'avais droit à trois rendez-vous avec des éditeurs parce que j'étais sélectionné dans un concours illustration et que j'avais pris deux noms que je connaissais, c'était Dargo, Castarban, et que puis je cherchais l'an 2 dans la liste alphabétique, mais Actu était encore plutôt première dans la liste alphabétique et que je m'étais trompé. Mais probablement l'histoire de Thomas est plus vraie.
Moi, j'aime les trois.
Je sais que mon mémoire est pas correct en général, donc.
C'est quoi la troisième version?
Bah, j'avais l'impression que j'oublie là.
C'est un mélange de tout ça.
Une autre que ça pourrait plus être.
Mais il y avait surtout, moi ce qui me plaît dedans, c'est que je vois le travail. À Montreuil, il y a un travail fantastique qui est fait par l'organisation du Salon du Livre de Jeunesse, où des auteurs peuvent venir rencontrer des éditeurs, directeurs artistiques pour trouver du boulot. Et moi je trouve ça passionnant de voir où en est souvent, c'est des jeunes qui sortent d'école. Et donc, où en est l'image aujourd'hui? Où en est le... Et donc, ça fait 15 ans que je fais ça. Et je trouve ça toujours aussi passionnant. Et donc, je rencontre Brecht et je dis, ah, c'est magnifique, t'as 120 pages. Mais nous, on ne veut pas faire du décoratif. Hein. Tes images, elles sont belles, mais il faut que ça raconte quelque chose du monde. Et il me dit, bah, j'aurais pas fait 120, 60 pages si j'avais rien à dire.
Oh, quel petit arrogant.
Alors, j'ai dit, bah oui, c'est la bonne réponse. Donc on va faire ça, parce que je parle pas flamand une seconde, hein, mais c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut avoir envie de dire quelque chose.
Et vous n'avez pas pensé de publier les anciens albums de Brecht Stavens qui ne sont pas encore traduits en français, bah, s'il vous plaît?
Je crois qu'on n'a même jamais considéré ça.
Non, parce que je pense que ça... C'est surtout la couverture du...
Oh là là, non, ils sont vraiment pas très bien. J'étais ultra jeune, j'ai commencé à publier par une sorte une drôle d'accident à 19 ans. Et, non, il faut vraiment que ça ne voit jamais le jour en France, surtout. Attends, j'ai l'impression d'avoir une réputation correcte maintenant. Oui. Ouais. Pourquoi aller jouer avec ça?
Que ce passé te hante. Et justement, tout à l'heure, on parlait de votre dessin qui peut se lire dans plein de sens et qui s'affranchit des cases. Est-ce qu'il y a une collaboration forte entre vous en termes de passage du dessin pur à l'édition? Ou enfin, c'est quelque chose que vous pensez en amont ou...
En passant du dessin à... c'est sûr que là, surtout avec les rigoles, il y avait eu beaucoup de collaborations. On s'est vu souvent, ça a duré des années...
C'est surtout comment traduire le dessin. Moi, ce que j'ai compris avec le temps, parce qu'on apprend toujours, c'est que c'est une traduction. On passe d'un dessin quadri avec un million de couleurs à de la quadrichromie, des fois 5. Et donc, c'est comment arriver à traduire ce truc-là, en fait, à traduire déjà le texte et puis la couleur. Comment arriver à faire qu'il y ait une unité. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout les originaux. C'est pour ça qu'on a créé Lontano aussi, c'est pour avoir rentré un peu plus dans le texte, mais dans l'image. Mais c'est arriver à trouver une cohérence globale qui raconte quelque chose.
Justement, vous sortez donc dans la collection Lontano un élément, donc Brecht Stevens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, ce sont des grands formats.
C'était inspiré de plusieurs choses. Il y avait la collection Delpire. C'est des formats 30-40, que de l'image. Pour ramener de l'image un peu dans le monde actuel. Je pense qu'on manque d'images et d'imaginaire, de l'image simple. Il y a une surenchère du beau livre, des trucs à 40, 50, 100 euros. Et l'idée, c'était de ramener comme une... Donc, comme Delpierre avait fait une époque, ou alors Futuropolis, ou Stéphane Blanquet qui a fait ses Et c'était de ramener que de l'image, pas trop cher, avec une possibilité de l'éditer à l'étranger aussi, parce qu'il n'y a pas de texte, donc on peut faire des coproductions. Et dans un pays, en Espagne, Roumanie, Russie, où il n'y a pas tant de public que ça, d'arriver quand même à produire quelque chose ensemble. Et d'avoir, comme Photopoche aussi, chez Actes Sud, ou mais créé par Delpierre avant, voilà, des anthologies d'images d'un auteur, faire un portrait d'auteur. Alors, ça s'appelle Lontano, lié à au premier titre de la collection de Gabriella Giandelli, qui avait fait
donc
une BD grand
format. Italien, oui.
Ah oui,
oui.
Bah, ça, tout vient d'Italie, non?
Bien sûr.
En général. Qui a une réflexion sur l'image dans le futur. C'est une sorte de petite histoire de bande dessinée science-fiction où il y a pour moi, je le ressens comme ça, une question sur l'image plus tard. Qu'est-ce que c'est que le souvenir? Pourquoi on a besoin des images? Qu'est-ce que c'est qu'une image sensible ou une révélation ou même de la couleur, enfin, de prisme coloré qui apparaît dans l'image. Donc, ça donne un peu le ton de toute la collection, de vouloir ramener des images lointaines, Lontano, dans l'espace ou le temps. Donc, c'est autant aller publier un auteur indien qui a fait une fresque de 75 mètres de long en Inde, ou alors un auteur du passé, les premières envies, c'est Granville ou des Daumier, ou même des choses lointaines aussi. Calvo, là j'ai découvert des images de Calvo incroyables. Et donc c'est, voilà, c'est essayer de réunir tous ces gens-là autour d'une ligne, mais qui n'est pas définie à l'avance. Donc les trois premiers, c'est Gabriella Giandelli, Yann Kebi et Brecht Evans, parce que ça fait du bien de rentrer. La BD, elle ne peut pas être de 40 cm de haut, ça ne sert à rien. Mais de rentrer dans ces images plus profondément, ça fait, moi je trouve que ça fait du bien.
Et pourquoi vous avez choisi de commencer par ces trois auteurs en particulier?
Un peu par amour.
Oui, tu peux le dire.
Ah, il y a quand même de ça.
Donc c'est une déclaration d'amour.
Bah oui, c'est le proche, pas lointaine. Parce que c'est des gens qui me portent, donc c'est des gens qu'on a envie de montrer. Voilà. Puis après, ça va être, il y en a un par mois. L'idée, c'est d'en faire un par mois, donc il y a de quoi faire.
Et 30 x 40, c'est vraiment grand. Dit comme ça, ça n'a pas l'air spécial, mais quand. Ouais, c'est.
Ça permet de rentrer dedans.
Ouais, et ça permet de même accrocher, ou c'est juste, grand. Voilà.
Et pas trop, ouais.
Et alors justement, à propos de grand, j'ai vu que vous aviez fait des grandes fresques et des installations. Comment vous êtes passé de du dessin à ces grands formats? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était libérateur?
J'ai triché. J'ai fait ça sur une plutôt grande feuille de papier, chez moi, dans les mêmes circonstances que toujours. Si tu parles des fresques qu'il y a en Belgique, peut-être,
oui.
Non et des super teams de peintres, graffeurs ont passé des semaines ou des mois, dans certains cas, de transposer ça sur un mur. Donc moi, j'étais très confortable dans un lieu chauffé à faire tout ça calé. Par contre, j'avais toutes les dimensions des trucs exacts. Quand il y avait une petite corniche, une petite porte, quelque chose, je prenais ça en compte. Mais c'est pas moi qui a passé 6 mois à faire une fresque. Je suis pas Michelangelo.
Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos futurs projets? J'ai entendu dans une interview que vous avez donnée en juin 2019 que vous êtes en train de travailler sur une histoire des marrons, c'est toujours d'actualité?
Le Harry Potter breton.
D'accord, parfait. Vous pouvez nous dire quelque chose de cet Harry Potter breton?
Je crois que je suis tellement content de résumer un truc en deux mots. C'est pas à chaque livre que j'y arrive que je suis très content de laisser ça comme ça.
D'accord. C'est un super teaser en tout cas.
Ouais, okay. Non
ouais. C'est pas mal.
Et on passe maintenant à notre question dessinée, notre question gossip dessinée pour clôturer cette interview. Donc, j'ai entendu, Brecht, que on a une passion, au mieux une peur en commun. Donc, j'ai entendu dans une interview sur France Culture que vous avez mis 12 scotch, vous avez peur des punaises. Vous avez mis 12 scotch dans une petite partie de votre appartement.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que les scotch peuvent vraiment les arrêter?
Non, j'y crois pas vraiment. Ça me donne, j'imagine que c'est un effort de tenter, d'avoir essayé au moins. Tu vois, c'est les, comment ils s'appellent, les punaises diaboliques, c'est ça? Le stink bug en anglais?
Bad. Les bad doulis?
Non, c'est d'autres choses, les punaises diaboliques.
Non, c'est en fait la punaise diabolique.
C'est quoi?
Si tu les as pas encore vues, tu les as vues déjà. avec le climat et tout, ils viennent ici, ils n'étaient jamais ici avant, ils n'ont pas de prédateurs, ils sont... Et ils te font pas mal, mais...
Ah, si... les tout qu'il y a dans les campagnes, qu'il y en a trop,
justement,
c'est
justement,
il
faut
ça
que je les dessine, ouais, j'imagine.
C'est j'en ai chez moi.
Oh, ah oui, surtout quand tu es sur un étage haut. Et si tu les tues, bah, ils sont, c'est un peu comme des... Perversement, comme des zombies, si tu les...
comme les autres viennent
horrible,
les manger.
C'est une sorte écœurante, truc apocalyptique. Si tu les tues, ils lâchent une sorte d'hormone qui en attire 1000 autres. C'est très bizarre, parce que pourquoi, si tu te fais tuer, pourquoi ça serait un signal pour que tout le reste vienne te voir? C'est vraiment inventé comme...
D'accord.
Comme une invasion terrible.
C'est peut-être des bestioles masochistes.
Ouais, c'est exactement. Il faut apparemment les attraper avec des bizarres moyens, avec un aspirateur, et, exactement, et une sorte de chaussette, et puis les mettre dans le freezer. Et comme je suis dernier étage, ils ont tendance à se trouver le plus haut dans les bâtiments. D'accord. Il y a encore un peu des combles, un peu sinistres en haut de mon lieu, et ça, j'ai scotché. J'ai parlé de ça,
oui,
c'est bizarre.
Oui, oui, dans une interview sur France Culture, les journalistes étaient venus chez vous, donc vous faites un commentaire détaillé de votre appartement.
Ah, oui.
Voilà.
C'était gentil. Oui.
Voilà.
Merci pour cette nouvelle peur.
C'est déjà le temps de vous dire adieu. Merci beaucoup, Brack Stavens. Merci beaucoup, Thomas Gabinson, d'être été avec nous ce soir. Si vous voulez continuer et voir lontano quelque part, n'oubliez pas d'aller le 8 novembre vers 18h à la librairie Les Parages à Paris. Il y aura un événement festif, une dédicace autour de la collection lontano. Et n'hésitez pas aussi à aller chercher lontano en librairie. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Bonne soirée. De l'album Sorcière. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité BD.
Dissection, nécropsie, vivisection de la bande dessinée.
Ce soir, on va vous parler de La Petite Russie de Francis Dernay, publiée par les éditions Pow Pow en octobre 2018, de QP de Power Paola, publiée aux éditions Agrum en mai 2019, des clubs des chats qui cassent la baraque de Yon Sun Park, publié aux éditions Misma en mai 2019. Mais on commence par La Petite Russie. Julia, on t'écoute.
Donc, La Petite Russie, c'est une bande dessinée de Francis Dernay, en effet, et c'est l'histoire de la colonisation de l'Abitibi dans le nord du Canada. À travers Marcel et Antoinette, nous suivons le récit de Guyenne, un petit village pas comme les autres. C'est une coopérative. Hommes et femmes y coupent du bois qui ne leur appartient pas. La COP garde 50% de leur salaire pour financer le développement de la colonie. En échange, la communauté s'entraide et chacun a sa maison, son lopin de terre à lui. Dans le coin, il y en a qui appellent cet endroit la Petite Russie. Alors, outre le projet politique d'une société autogérée, la Petite Russie montre aussi des femmes qui se battent pour avoir leur place dans une paroisse dont les décisions sont prises par des hommes, sur fond de désinvestissement progressif de l'État. C'est une bande dessinée de 180 pages qui est en noir et blanc. Outre les dessins de Forêt qui constituent le personnage central de l'ouvrage, les personnages sont dessinés en lignes claires, les cases sont épurées. Alors je sais qu'il y a une tradition ou un principe en bande dessinée selon lequel plus la BD est proche du documentaire, plus le dessin est simple pour soutenir la narration, mais je dois dire que j'étais un peu frustrée de l'aspect aride des cases. Si la bande dessinée est instructive sur une histoire du Québec qu'on connaît assez peu, et le dessin est bien réalisé, celui-ci reste assez simple. Bon, il faut rappeler que son auteur, c'est un graphiste qui jusque-là dessinait plutôt des projets humoristiques, d'où le trait caractéristique des strips, un trait noir sur fond blanc, sans dégradé de gris. Dans la mesure où on suit l'intimité d'un couple, puis les scènes de débat populaire, il me semble qu'il y avait matière à une esthétique plus fournie, plus épique. On est proche des styles de bande dessinée d'investigation, certes, mais je pense à des ouvrages comme S'enfuir de Guy Delisle, qui est le récit d'un otage, qui sont esthétiquement plus complexes. Il y a un travail des plans et des points de vue, des ombres, une déstructuration ponctuelle des cases. Je pense aussi au rapport Brodeck de Larsenet, qui peut faire penser à La Petite Russie, puisque ça développe aussi la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers le récit du cas particulier d'un petit village. La nature, et notamment la forêt, y est aussi omniprésente, comme l'hiver et la neige, mais c'est justement l'occasion pour l'auteur de créer des doubles pages magnifiques à l'encre de Chine, qui soutiennent le récit par leur beauté. Alors voilà, c'est peut-être juste moi qui ai besoin que la forme soit belle et surprenante pour être touchée par une histoire, mais ça a été une frustration pour moi à la lecture. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé cette bande dessinée. Déjà, elle reste bien foutue, et puis surtout, le propos est intéressant. S'il y a peu de surprises esthétiques, j'ai quand même vraiment aimé quelques très belles pages de crépuscule ou d'aurore boréale en clair-obscur qui sont réalisées à la peinture et qui scandent le temps qui passe sur Guyenne. Voilà, j'ai lu cette bande dessinée en parallèle de Pierre-Paul. Qu'est-ce que tu en as pensé, Pierre-Paul ?
Alors, j'ai plutôt bien aimé, moi, en fait, cette bande dessinée, parce que je connaissais pas du tout l'histoire de Guyenne, en fait. Et de toute façon, même en tant que Français, je connais pas l'histoire du Canada, soyons honnêtes. Alors, la Guyenne, c'est en plus l'histoire qui est méconnue au Canada, donc c'est nickel. Là, ça touche des trucs qui m'éclatent. Au niveau du dessin, bon, on est vraiment sur les strips et tout, et on peut rentrer assez facilement en fait quand on regarde, on est sur la forêt, on va suivre donc ce personnage. Et j'aime bien ce petit gars, en fait, on va le suivre pendant 20 ans. Il arrive, il amène sa femme, il est là, lui ce qu'il veut faire c'est l'agriculture, les gens s'en foutent. Et il y a tout un truc en fait. Quand moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, je suis allé chercher un peu, mais Guyenne c'est quoi, je crois que j'ai déjà entendu. Et je me suis retrouvé à regarder en fait une émission, enfin une sorte d'interview de militants syndicaux qui parlent justement de cette histoire, de la coopérative, etc. Et les coopératives là-bas, bah, c'est vraiment tout le milieu chrétien qui ont lancé le truc en fait.
Tout à l'heure, Pierre-Paul, tu me disais que tu avais donc regardé ce documentaire et que tu avais été fasciné par l'aspect autogéré. Et en fait, Enfin, le côté politique, en fait, le contexte qu'on perçoit un peu avec le côté très conservateur, il y a un prêtre qui gère un peu cette petite ville.
Mais non, justement, c'est ça qui est génial, c'est que le prêtre ne gère pas la ville. Comme c'est une coopération, les gars, ils arrivent, et c'est le cas du personnage principal, qui est en fait le grand-père de l'écrivain, je ne sais pas si tu en as parlé. Le gars, il arrive, il doit signer un contrat, interdit de jurer, interdit de boire. On voit vraiment le carcan catho, mais en même temps, ça permet de créer communauté. Et surtout, comme c'est coopérative, tu verses 50% de ton salaire à la coopérative, et on prend les décisions tous ensemble. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de
tous ensemble
en fait.
Entre hommes.
Mais, et voilà, c'est ça. C'est tout le jeu, c'est tous ensemble entre hommes. Et voilà. À l'époque, ils étaient considérés comme un bastion communiste. Alors que pourquoi ils sont créés en coopérative ? Simplement parce que tu avais en 29 la crise qui est arrivée, ils se sont retrouvés à avoir plein de pauvres et ils ont décidé de structurer. Et c'est vraiment les cathos sociaux qui ont fait ça.
Bon,
c'était
donc,
cool.
N'hésitez pas à lire cette nouvelle BD de Francis Desharnais si vous avez envie de vous documenter sur ces histoires des coopératives au Québec, voilà, sur les forêts. On passe maintenant à Cupé de Power Paola, publié aux éditions Agroom et Mail 2019. Alors, Cupé est une compilation des courtes chroniques et bandes dessinées qui s'enchaînent en dessinant l'histoire d'un couple, celui de Power Paola et son compagnon, Kiké. Power Paola est une auteure de bandes dessinées et une plasticienne. Elle est née en Équateur. En 1977, elle est autrice de plusieurs BD. Elle a déjà fait deux BD sur son projet autobiographique Virus Tropical et Tout va bien se passer. Donc moi, je connaissais pas du tout son travail, je viens de le découvrir et je suis assez impressionnée par sa capacité d'introspection psychologique. Tous les états psychologiques sont détaillés par les paysages, surtout. Parce que les personnages ils sont assez statiques. Il faut quand même remarquer que dans les dessins, il y a une grande attention sur les yeux, qui sont toujours dessinés de façon hyper détaillée. Les dessins faits à l'encre des Chines, je crois, il a un aspect ex-punk, faussement déglingué. Les cases sont pleines de petits détails, et je pense que ça lui prend un ton fou. Et elle a une sorte de passion pour la vie quotidienne, au point de me rappeler les travaux au théâtre de Daria De Florian et Antonio Tagliarini, avec leur amour des petites choses. Pour ce qui concerne les contenus, Power Paola nous raconte son quotidien d'artiste, les voyages au Salvador, en Colombie, en Amazonie, ses rêves, ses peurs liées à la vie quotidienne. les sujets, quand même les grands sujets de ces romans graphiques, est l'âge adulte avec toutes ses déceptions, sa routine et ses difficultés. Cupé renferme 8 ans de souvenirs du couple, recensant des moments très intimes, des anecdotes liées à son travail, jusqu'à la séparation avec son compagnon Kike devant une glace. Et là, Power Paula nous donne un conseil précieux. Pour affronter les moments difficiles, c'est bien de manger une glace. Je l'ai expérimenté moi-même, sans avoir la lucidité de le reformuler, et je confirme. La glace est un bon remède. Donc, pour conclure, pour moi, c'est une autobiographie intéressante, MBD, à lire, agréable. J'ai quand même adoré son esthétique, je trouve son écriture très sincère, spontanée. Mais bon, il n'y a quand même rien de révolutionnaire dans cette BD. Je ne sais pas, qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu en as pensé, Michel ?
Michel, qu'est-ce qu'il en a pensé ? Il a trouvé que c'était effectivement c'est un dessin qu'il a déjà vu au sens esthétique du terme, etc. Mais enfin bon, ça se tient, c'est beau, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien toujours la BD assez expressive. Il y a une part d'expressivité, hein, mais ça ne me correspond pas forcément à la mienne au sens où c'est effectivement, comme tu disais, assez froid pour moi. Et alors, moi, le seul souci que j'ai eu, même si je trouve que finalement cette espèce de carnet qui finit avec cette séparation aussi, c'est quand même une bonne idée parce que finalement on a suivi Kike pendant tout le. Ils font les voyages ensemble, quand il est absent, etc. Et on se retrouve à la fin à avoir cette espèce de dénouement. Voilà, ça finit comme ça. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, on passe quand même par des heures d'ennui, on a l'impression. Au sens pas où moi je m'ennuie, mais de leur propre ennui.
Oui, on la ressent.
J'ai un problème quand on m'explique que c'est vachement bien fait parce que on ressent bien l'ennui que les protagonistes d'une histoire subissent.
Donc c'est une chose que j'apprécie parce que cette sincérité elle arrive à parler de la routine de façon poétique. Je trouve ça, tu vois, elle arrive à sublimer les nuits. Donc c'est pour ça qu'elle est intéressante à mon avis cette BD.
Oui.
C'est pour ça qu'elle mérite les deux tours.
Déjà graphiquement, elle mérite quand même un vrai coup d'œil, et puis après ça se lit quand même, il n'y a pas de soucis. Mais
passons maintenant à la dernière bande dessinée de la soirée, Les clubs des chats qui cassent la baraque, Yon San Park, publié aux éditions Misma en mai 2019.
Voilà.
C'est toi, Michel, qui va nous parler de cette BD.
Oui, j'ai lu, c'est un deuxième album qui fait suite à un premier qui s'appelait simplement Le club des chats. Donc là, c'est le club des chats, pas qui casse la baraque, mais directement casse la baraque. Alors, Yon Sun Park, c'est une artiste coréenne qui doit frôler dans les 40 ans maintenant. Elle est installée en France depuis quelques années. Elle a publié 6 ou 7 albums depuis 2011, dont un fameux En Corée en France, qui est un brin autobiographique, ou encore Les aventures de l'homme-chien, si certains sont déjà inspirés par le titre. Donc, Le club des chats est un recueil d'aventures gravitant autour d'un trio de chats, répondant au nom typiquement peu félin de Nounours, Plume et Choupi. Alors, ils sont les réels propriétaires d'une maison de campagne gérée par une artiste peintre qui s'appelle Marie. L'approche m'a fait penser aux réflexions de James C. Scott que j'ai lu cet été dans son livre Homo Domesticus et qui pose la question suivante. Est-ce nous qui avons domestiqué le chien ou est-ce le chien qui nous a domestiqué ? Ce n'est pas si clair. Donc là, je cite. Hein, la question de savoir qui est au service de qui est presque métaphysique, du moins jusqu'à l'heure du déjeuner. C'est nous qui avons domestiqué le blé, le riz, les moutons, les cochons et les chèvres, mais si on examine la question sous un angle légèrement différent, on pourrait argumenter que c'est nous qui avons été domestiqués. Et donc, quelque part, c'est un peu la matrice, de l'approche de cet album, car les chats, ici, vont évidemment avoir un rôle central, et on a l'impression que c'est eux qui mènent la danse complètement. Alors, c'est pas une BD métaphysique non plus, hein. Nounours, Plume et Choupi restent des chats assez anthropomorphes sous bien des aspects, parce que sinon en tant qu'humain, à mon avis, on s'ennuierait quand même pas mal à les lire, à les voir dormir. Mais toutefois, une partie non négligeable de leurs aventures s'inspire effectivement de leurs ficelles typiquement félines, courir après sa queue, se frotter contre tout et n'importe quoi, ronronner, etc. etc. Donc les histoires que vous trouverez dans ce recueil sont assez inégales par leur taille, il y en a une vingtaine qui vont d'une page jusqu'à 11 pages. Elles sont en général très vives, très délirantes. Et ça se caractérise en général par... vous pouvez vous apercevoir que ça se caractérise par plusieurs points. Alors tout d'abord, il y a une sorte d'agitation permanente. Il y a beaucoup de mouvements rendus par des traits de vitesse, des gouttes de sueur, des fleurs pour indiquer les odeurs, etc. Il y a des phylactères expressifs. Ah, phylactères. Vous savez ce que c'est, phylactères ?
Moi, non. C'est quoi ?
Bah, en fait, c'est les bulles des discours. On peut appeler ça des phylactères.
Ah, oui.
Et ensuite et surtout, il y a une originalité certaine dans le déroulement des histoires, surtout quand elles sont longues. Ça ressemble souvent à des rêves bruts dessinés. Par exemple, dans l'histoire Chastor Junior, les trois chats font du camping sur une colline, inspiré par un livre écrit par un canard chevronné dans le domaine. Ils montent alors leur tente, mais une inondation provoquée par un nuage anti-camping les met en danger. Marie s'en aperçoit avec des jumelles et appelle le canard à la rescousse, qui part les sauver avec une corde réalisée en poil de chat et une barque faite en pétales. L'inondation est évaporée en dessinant un soleil dans les jumelles. Bon, bref, il y a quand même du LSD dans l'air. Hein. C'est assez clair que
Parce que les pétales, ils sont gonflés. Ce n'est pas des pétales normales, ce sont des pétales de fleurs, mais gonflés par la pluie.
Oui, exactement.
Et donc, ils se transforment dans des mini-bateaux.
C'est ça. Donc, ça fait un peu penser sur les bords. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure là, avec nos invités, au Fred du Philémon. C'est-à-dire que c'est très onirique. C'est, bon. Après, le style de dessin est très différent. Là, on est vraiment dans la ligne claire, des contours souvent qui sont... quand même non fermé, ce qui produit un effet un peu négligé. Les couleurs débordent assez facilement, sont assez vives dans le jaune, vert, rouge, marron. Et donc, après, d'un point de vue de l'expressivité, donc est très forte du fait de ce nombre de traits, d'agitation, etc. Disons que vous avez aussi un pendant sur les visages, par exemple. L'expressivité des visages est rendue par le fait que, par exemple, dès qu'un être, que ce soit un chat ou autre, parle, eh bien, vous avez des grandes bouches qui s'ouvrent, des yeux écarquillés, etc. J'ai bien aimé en particulier, alors je crois que c'est le personnage de Choupi qui me semble avoir une bouche en forme de losange. Alors je me trompe peut-être, c'est peut-être plume, je ne sais plus. Mais
attention, pas confondre.
Mais c'est là pour le coup, ça ajoute encore une fois à l'expressivité. À chaque fois, vous voyez cette bouche, c'est assez marrant. Donc c'est quand même une BD qui peut s'adresser à tous les publics, jeunes et adultes. Voilà.
Tout à fait. Mais écoutez, moi j'ai adoré cette BD. Je la trouve complètement hallucinatoire. J'ai par exemple Plume qui naît dans une coquille d'œuf. Oh, effectivement, mais le premier épisode où les clubs des chats décident de faire une réunion, donc ils sont tous là, hyper excités par l'idée de faire une réunion, donc
un
ils sont
toi.
Là, on voit partout, on va faire une réunion, on va faire une réunion. Donc il prend des détails de la vie quotidienne des êtres humains et il les rend extraordinaires. Je trouve dans cette naïveté quelque chose de très, des hyper
La naïveté au sens du côté naïf.
Oui, on rentre un peu dans un monde un peu à la Wes Anderson. Je ne sais rien, mais ça permet vraiment de rentrer dans un monde un peu enfantant, mais en montant avec les problématiques de la vie normale.
Ouais.
Et ça devient extraordinaire. On est complètement dans un monde sous LSD avec des chats. Donc,
ouais.
N'hésitez pas à aller lire cette BD. Et on passe maintenant à l'agenda.
Strip sismique sur Radio Campus.
Donc, juste un petit rendez-vous. Ce soir, on vous annonce les jeudis 14 novembre à 17h à la librairie Super-Héros à Paris. Il y aura Lucas Varella qui dédicacera son livre « L'humain » paru aux éditions d'Argo. Alors, nous avons ce soir, avec Strip Sismique, on vous donne rendez-vous en décembre pour notre troisième émission. Cette transmission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Julia Legrand, Michel Carton, Pierre Paul et réalisée par Pierre Paul. À très bientôt sur Radio Campus.
Je voudrais ajouter un truc.
Paris.
Et vous pouvez trouver le dessin de Brecht Evans sur le site en réponse à la dernière question.
La réponse, la question dessinée. À bientôt. Bisous sur Radio Campus Paris.